nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Jacques de la Rosière, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette dernière session de Focus. Tout au long de cette semaine, nous avons évoqué avec vous votre fonction de directeur général du FMI entre 1978 et 1987. Puis vous nous avez fait revivre vos années en tant que gouverneur de la Banque de France à l'époque de la crise du franc, en tout cas de la défense du franc. Hier, nous avons parlé de votre rôle dans la mise en place de la monnaie unique, l'euro. Et aujourd'hui, pour terminer la semaine, nous allons plonger avec vous dans une autre de vos hautes fonctions que vous avez exercées. Je veux parler de la direction de la BERD. La BERD, c'est la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, des fonctions que vous occupez à partir de 1993, c'est cela ?
Oui, tout à fait.
Alors, la BERD, en 1991, en quoi consiste cette Banque Européenne ?
Eh bien, c'est une banque qui a été créée pour faciliter ce qu'on appelle la transition, c'est-à-dire l'évolution des pays qui ont vécu sous le régime communiste pendant des décennies vers une économie de marché. Et comme vous savez, le mur de Berlin s'est effondré à la fin de l'année 1989. Ces pays sont devenus indépendants du système soviétique à partir de 90. Et il était assez logique de vouloir créer pour la modernisation et la transition de ces pays une banque de développement et de reconstruction, car il s'agissait de reconstruire sur les ruines d'une économie antérieure. C'était assez logique de créer une banque internationale de ce type.
Donc elle n'avait rien à voir avec la Banque Centrale Européenne, la BCE.
Non, rien du tout. Parce que la Banque Centrale Européenne, c'est vraiment la politique monétaire. Et ça, c'est une banque qui avait des participations gouvernementales pour investir dans des projets et des opérations économiques à moyen long terme.
Et vers des pays qui ne faisaient pas encore partie de l'Union Européenne.
Tout à fait. Et donc, on a bâti cette banque, comme vous l'avez rappelé, en 91. Et j'en ai pris la présidence en 93, dans des circonstances qui étaient un peu difficiles.
Oui, puisque votre prédécesseur, en fait, a démissionné.
Oui, il a été amené à démissionner. Et il fallait donc un peu reconstruire aussi, si je puis dire, le moral de la banque et sa crédibilité.
Et parce que justement, quand vous êtes présenté, il n'y avait pas d'autres personnes qui se présentaient. Vous étiez le seul, en fait, cette présidence.
Oui, enfin, on m'a demandé de faire ça.
C'était un siège difficile à occuper.
C'était un siège difficile à occuper, mais je l'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'ai donc restructuré la banque dans la manière dont elle était organisée. Et j'ai essayé de lui imprimer un élan et d'activer les opérations qui avaient été, enfin qui devaient être conduites dans ces pays. Je m'empresse de dire d'ailleurs que mon prédécesseur avait recruté les gens très bien. Il y avait vraiment un personnel de très bonne qualité, mais il fallait à mon avis modifier l'organisation interne de la banque pour la rendre plus efficace, et en particulier éviter une distinction que j'ai trouvée à mon arrivée et qui consistait à séparer les opérations du secteur privé de ces pays des opérations du secteur public. Comme tout le jeu consistait à transférer une grande partie du poids du secteur public vers le secteur privé, si vous mettiez une direction ou une vice-présidence chargée du secteur privé et une autre chargée du secteur public, on pouvait créer des freins à la transformation. Alors j'ai supprimé tout ça, et la banque en fait a très bien fonctionné avec des gens, comme je l'ai dit, tout à fait remarquables.
Alors vous avez multiplié les projets ?
Oui, on a multiplié les projets, on en a fait beaucoup dans tous les pays, c'est-à-dire dans tous les pays d'Europe centrale et de l'Est, plus la Russie, l'Ukraine, etc. Et
la
pays...
Croatie, la Géorgie ?
Non. La Croatie, à cette époque-là, oui, la Géorgie et tous les pays dits de la CEI, c'est-à-dire les pays de l'ancienne Union soviétique qui vont très loin vers l'Asie centrale. Alors, donc, ça a été une action qui a été passionnante, parce que j'avais d'une part à redonner un peu de morale à la banque elle-même, et surtout, j'avais à travailler sur ces économies qui étaient en développement et en transition. On a beaucoup fait, et il faut dire que la banque était, et là aussi je rends témoignage à mon prédécesseur, était très bien équipée pour le faire, parce que elle pouvait faire à la fois du capital, des opérations en capital, c'est-à-dire qu'elle prenait des participations dans le capital, ce que les anglo-saxons appellent l'equity, dans les entreprises, et elle pouvait aussi faire des prêts. Et le fait de pouvoir faire les deux lui donnait une capacité d'action que pratiquement aucun organisme n'avait à l'époque à ce stade. Et nous avons développé les microcrédits en Russie, les petits crédits aux PME. Nous avons participé à des privatisations qui ont vraiment lancé le mouvement de privatisation. Et les principes sur lesquels était fondée notre action étaient très simples. Il fallait que les projets soient rentables. Il fallait qu'ils contribuent à la transition et qu'ils soient donc dans l'axe des statuts de la Baird. Et il fallait aussi, bien entendu, qu'il soit en quelque sorte infaisable ailleurs. Il fallait qu'il y ait une sorte de spécificité de la Baird. Si une banque proposait exactement le même service, c'était pas l'argent des contribuables qu'il fallait mettre pour un projet qui pouvait être fait par une autre banque. Et donc ces trois principes étaient extrêmement importants. Nous les avons toujours respectés, ils sont d'ailleurs toujours respectés.
Et ça a bien marché, puisqu'en 1995, vous avez dégagé un bénéfice net de 7,5 millions d'euros contre 1 million l'année précédente.
Oui, oui, non, c'est une banque qui a bien marché, les pays ont remboursé.
Mais sur l'autre, 6,5 millions supplémentaires, c'est énorme.
Oui, mais c'est une banque qui a en effet très bien marché, il y avait d'excellentes équipes, très enthousiastes, et c'est une des périodes les plus passionnante de ma vie professionnelle, certainement, que j'ai eu là. Et donc, je suis parti. Alors,
vous avez démissionné en 1998.
Non, je n'ai pas démissionné. On m'a demandé de faire un deuxième mandat. Et j'ai préféré revenir à Paris pour des raisons personnelles.
C'était donc un mandat de 5 ans.
Et c'était un mandat, oui, de à peu près 5 ans. Et j'ai fait mes 5 ans de 93 à 98. Et à ce moment-là, je suis parti. Faisais des mandats de 4 ans et demi, techniquement. Oui. Et je suis parti parce que je préférais faire autre chose. Dans la vie, il faut se remettre en question.
Mais alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est une banque européenne qui marche bien. Et pourtant, vous n'avez pas de successeur en 1998.
Oui, mais enfin, on en a eu un. Après, c'était un Allemand qui s'appelait Köhler, qui est
mais
maintenant président.
Mais on ne se battait pas pour avoir le siège.
Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé. Si, on devait se battre pour avoir le siège, mais il fallait que les gens soient d'accord sur un nom. Et ça, c'est toujours plus difficile. Et puis finalement, on en a trouvé un. Et puis maintenant, on en a un très bon, qui est Jean Lemierre, et qui fait un excellent travail.
Donc depuis 1998, vous êtes maintenant conseiller pour le groupe BNP Paribas.
Tout à fait. Je fais des choses qui m'intéressent énormément. Je suis très satisfait de mon sort.
Alors avant de terminer notre rencontre, je vous propose de vous plier au questionnaire de Proust. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, je précise que c'est une tradition dans notre émission. Le principe est simple, vous tirez quelques questions au hasard et vous les lisez pour que les auditeurs en prennent acte. Et puis vous y répondez tout simplement d'une manière assez ludique d'en savoir un peu plus sur vous, monsieur Jacques de la Rosière.
Alors la question que je viens de prendre, c'est le don de la nature que je voudrais avoir. Et ce don, c'est la musique.
La musique ?
Oui.
Comme Raymond Boudon. Alors comment...
Ah bon ?
Oui. Alors, pourquoi ? Vous avez été musicien, plus ou moins ?
Non, mais j'aime énormément la musique, mais je n'ai jamais étudié la musique. Je ne sais pas lire une note.
Mais j'ai mis trop tard pour commencer.
Oui, mais enfin, quand même, à 75 ans, je ne suis pas sûr. Et donc, c'est une chose que j'aurais aimé avoir. C'était une oreille absolue, la capacité de retenir des notes, de pouvoir les transcrire, etc.
De pouvoir jouer.
J'ai des amis qui jouent du piano et c'est une joie de la vie.
Le piano, par exemple, aurait été un instrument qui vous aurait,
Par exemple,
qui vous aurait plu ?
Parce qu'il a toutes les virtualités.
Une autre question ?
Mon rêve de bonheur. Mon rêve de bonheur, finalement, c'est la vie que j'ai menée.
Oui, vous avez eu une belle carrière.
Oui, j'ai eu une vie heureuse, surtout. Et donc, je n'ai pas de rêve de bonheur. Autre
parce que vous l'avez réalisé.
Oui, parce qu'il s'est réalisé, parce que j'ai eu à la fois la chance, les concours de circonstances et aussi les rencontres qui m'ont permis d'assouvir ce désir.
Les concours de circonstances, mais
profond.
Le talent aussi, ça joue aussi.
Oui, bien sûr, il faut un peu de tout. Il faut, comme disait l'autre, du talent, du travail et de la chance.
Une dernière question ?
Comment j'aimerais mourir ?
Bon, c'est pas très gai.
Brutalement, comme ça, dans la rue.
Dans la rue ?
Oui.
Au regard de tous ?
Comme mon père. Il est mort dans la rue. On m'a téléphoné d'un café, on m'a dit, un monsieur qui est mort, on a regardé ses papiers. Je pense que vous êtes son fils. Alors c'est un peu dur pour ceux qui l'entourent, mais c'est une manière de mourir. Il y a une autre manière de mourir qui est plus difficile, c'est de mourir dans la sérénité.
Pour vous, ce serait plus difficile ?
Ben, c'est toujours plus difficile, parce qu'en général, la mort s'accompagne de douleur, d'affaiblissement, et donc la sérénité n'est pas évidente. Mais c'est les deux belles morts. C'est la mort brutale, où vous ne vous rendez même pas compte.
Et oui, puis c'est surtout l'idée de ne pas se rendre compte.
Ouais. Et puis c'est celle où vous sombrez doucement et sereinement dans l'au-delà.
Merci Jacques de la Rosière, merci d'avoir passé ces 4 jours avec nous, ces 4 jours en notre compagnie. Focus, c'est terminé, mais on se retrouve très bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.